d'une. Si vous aimez les arts, la peinture, la tapisserie, des dessins, de la céramique, vous pouvez aller au CERN. Il n'y a pas que des expériences douteuses qui se passent au CERN, il y a aussi de l'art. Sur la route de Mérin, au bâtiment 500, il y a une exposition de quatre femmes, Rita Gallman, 40 ans de peinture, Brigitte Borsch, céramiste, Brigitte Gardien, qui fait de la tapisserie et des tissages, et Dorothée Viel, des dessins. Alors donc au CERN, dans le bâtiment 500, sur la route de Mérin. Il y a aussi quelques concerts. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme concert? Des concerts classiques. Allez, commençons par les choses sérieuses. Le mercredi, c'est ce soir, et bien 8h, vous l'avez raté, mais vous auriez pu y aller. Il y a l'orchestre de la Suisse romande avec une soliste, une violoncelliste comme soliste, Aurora Ginastera. Voilà. Des œuvres de Rimsky-Korsakov, de Ginastera, de Beethoven. Et c'est retransmis sur la radio, pas la nôtre, sur la RSR2. Vous pouvez l'écouter quand on aura fini. Avant, on ne vous donne pas la permission. Bien. Alors, sinon, il y a quoi encore? Il y a du théâtre. Alors, il y a le théâtre, c'est pas un théâtre de femmes, mais ça fait rien, on en parle parce que c'est très, très bien. C'est le théâtre du Loup, un théâtre bien de chez nous, du côté sud, nord de la frontière, est, ouest, enfin de l'autre côté en tout cas. C'est donc un théâtre genevois, le théâtre du Loup, qui joue Crazy Cat. C'est la mise en scène d'une bande dessinée des années 30 et il semble que c'est très très bien. Vous pouvez aussi y aller avec les enfants. Alors d'autres théâtres, il y a Alors oui, où se passe ce théâtre? C'est la maison de quartier de la Jonction Sainte-Clotilde 18 à Genève. Sinon, il y a une semaine sur le thème, une semaine orientale à la Traverse. C'est un centre de loisirs à la rue de Berne, dans le quartier des Pâquis, à Genève, 50 rue de Berne. Et dans cette semaine orientale, il y a deux moments intéressants. Ce soir, à 21h, passera la pièce de théâtre Parala, l'armoire est pleine d'esprit. C'est une pièce de théâtre qui a été montée par l'atelier théâtre des Pâquis. C'est un atelier qui a été fondée par des femmes et elles jouent avec des enfants et elles mettent en scène, elles composent la musique, elles créent la pièce, les décors, tout, la mise en scène, donc tous ensemble. Et ce soir, donc, c'est Parala, l'armoire est pleine d'esprit, à 21h à la Traverse. Et demain, à 2h30 à 4h30, c'est une conteuse, Catherine Zarkat, qui nous racontera les contes des Mille et Une Nuits pour jeunes publics et moins jeunes. Et le soir, à 21h, il y aura un film Au-delà des circonstances, film de Saad Salman sur la deuxième génération d'immigrés, avec toujours en filigrane un conte des Mille et Une Nuits raconté par Catherine Zarkat. Catherine Zarkat, d'ailleurs, re-racontera d'autres histoires des Mille et Une Nuits, cette fois-ci pour adultes, le vendredi 7 à 21h. Alors tout cela se passe donc dans le cadre de la semaine orientale à La Traverse, 50 rue de Berne. Toujours dans les théâtres, on peut aller voir cette semaine Les Bonnes de Jean Genet, joué par Nicole Borga, Irène Jacob et Ghislaine Deslien. C'est au théâtre Saint-Gervais, excusez-moi, à la rue du Temple. Alors, vous connaissez peut-être déjà cette pièce. C'est une pièce qui s'inspire d'un fait divers où deux sœurs bonnes ont tué, massacré leur patronne et la fille de la patronne. Et ça a été dans les années 30, et cela a inspiré beaucoup de gens parce que ça a mis en évidence aussi la misère et l'exploitation terrible des bonnes. Toujours dans le théâtre, cette semaine aussi au théâtre Off à Genève, au quai Ernest-Enzermay, il y a un café-théâtre qui s'appelle À table, joué par un couple, Gérard Chevrolette et Doris Ittig. Théâtre Off, quai Ernest-Enzermay, du 4 au 15 décembre à 9h. Et pour finir dans le classique, au Grand Casino de Genève, du 4 au 6 décembre. J'ai dit, c'est toujours décembre, hein. J'ai dit novembre avant, mais je me suis trompée, c'est décembre. Toujours décembre, vous pouvez aller voir Gigi de Colette par le gala Carsanti Herbert. Bien, alors il semble qu'il y a quelqu'un qui nous téléphone pour nous annoncer quelque chose. Pour le cinéma. Ah non. Alors voilà, maintenant nous avons fini notre tour des spectacles. Alors, deux moments forts, bien sûr. C'est vendredi soir, théâtre de femmes au centre femmes, et un moment politique moins agréable, mais très fort et très important, le procès de Philippe Yeni. Et maintenant, nous avons en ligne notre cinématophile préféré, Éponine Azelma, et sa chronique cinématographique. Voilà, 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 voilà. Allô? Allô, allô, allô? Voilà.
Bon, alors cette semaine, c'est Les Vaches Maigres. Hein. J'ai vu un seul film et je suis allée le voir dans l'intention d'en parler sur Radio Pleine Lune. Mais malheureusement, j'ai beaucoup de mal à parler de ce film parce qu'il est vraiment très, très, très nul. Ce film, c'est Reuben Reuben ou La vie d'artiste, d'un certain Miller, M-I-2-L-E-R. J'avoue humblement ne rien savoir de ce Miller et je déclare, sans humilité cette fois, n'avoir aucune envie d'en savoir plus. C'est quand même malheureux que je n'aille voir que des navets ces temps-ci. Depuis Greystoke, la légende de Tarzan, j'ai pas vu un seul film qui me plaise. Je vous jure que je ne fais pas exprès d'aller voir des mauvais films pour pouvoir les critiquer. Dans le cas de Reuben Reuben, on me l'avait encore chaudement recommandé. C'était un chef-d'œuvre d'humour, soi-disant. Effectivement, il me semble que ce film joue la carte de l'humour. Je dis bien « il me semble ». Parce que, quant à moi, je suis allergique à ce genre de comique, presque uniquement verbal, vaguement apparenté dans la thématique à un très très mauvais Woody Allen. Woody Allen, c'est un petit bonhomme avec des grosses lunettes qui ne laisse pas ignorer qu'il est génial et à qui cela confère un charme fou. Bon, mais on connaît Woody Allen. Tout ce que je veux dire, c'est que le héros de Reuben Reuben, un poète très alcoolisé, s'inspire indéniablement de ce type d'anti-héros intellectuel à la verbosité fleuve que Woody Allen a mise à la mode. La comparaison s'arrête là, parce que si Woody Allen, avec son fétichisme du génie, se trompe parfois de porte et rate quelquefois ses effets, Gowen, le héros de Reuben Reuben, les rate à tous les coups et sa verbosité est d'une bêtise à pleurer. Il faut dire que j'ai vu la version doublée de ce film et que c'est souvent fatal pour un film. Je veux bien mettre sur le compte de la version doublée quelques erreurs monumentales qui sont, à mon avis cependant, les seuls gags amusants du film. Malheureusement, je pense qu'ils sont involontaires. Au début du film, le héros poète épate la galerie en parlant du 19e siècle. Et il dit « Au 19e siècle, Madame Bovary s'est vue condamnée pour ses amours coupables avec Charles Bovary ». Or, Madame Bovary de Flaubert est un bouquin suffisamment célèbre pour qu'on sache que c'est Flaubert, l'auteur, qui a été puni pour crime contre la morale. Emma Bovary, quant à elle, est un personnage, et de plus, Charles Bovary, dans l'histoire, c'est son mari. Elle ne l'aime pas, et ce n'est sûrement pas avec lui qu'elle a des amours coupables. Bon, je suis loin de sacraliser la littérature, et ce genre de bourde me fait rire. Mais avouez que pour un film qui base ses dialogues sur la référence littéraire, ça la fout mal, hein. Il y a une autre bourde de ce genre, encore plus drôle. Un jeune étudiant cite à Gawain, le héros poète de ce film, quelques-uns de ses vers, des vers de la poésie, puisque le héros est un poète. Et il lui demande, sans ciller, quel est selon vous le signifiant de ces vers? C'est un peu comme s'il lui disait, quel est dans cette bouteille de rouge le contenant de cette bouteille de rouge? Bref, la couleur du cheval blanc d'Henri IV n'est pas, et de loin, ce qu'il y a de plus emmerdant dans ce chef-d'œuvre de conneries qu'est Reuben Reuben ou La vie d'artiste. Le plus emmerdant, c'est encore et toujours cette illustration de la vanité des mecs. Et malheureusement, c'est surtout dans les films aussi cons que Reuben Reuben que ça frappe. Dans les films de Woody Allen, ce fond de triomphalisme phallique est noyé dans un torrent de propos spirituels. Dans Reuben Reuben, comme c'est beaucoup plus débile, ça crève les yeux. Bon, de quoi je parle ? Je parle de cette prétention inouïe que les hommes ont par naissance. Le pou, P-O-U, le pou, le plus moche de la terre, peut viser Miss Univers, la femme la plus belle du monde. Il en a le droit, il n'est pas déplacé. Pour un homme, être moche, ça n'est jamais une condamnation sans appel. Faites seulement le test, prenez n'importe quel livre que vous achèterez dans n'importe quelle gare, vous vous apercevrez que, quand il s'agit d'un personnage féminin, la description physique intervient dès la mention du nom du personnage. Tandis que s'il s'agit du personnage masculin, la description physique est complètement accessoire. Quelquefois même, elle n'est jamais donnée, sinon par le biais des compétences du héros masculin dans l'action. Conclusion. Être un homme ne dépend jamais du physique. Être une femme dépend d'être belle. Pour en revenir à Reuben Reuben, le mec qui joue le rôle est volontairement choisi comme un anti-héros, pas très beau, pas très performant. Si on faisait des statistiques et si on choisissait dans un rôle équivalent le pendant féminin en mocheté de ce mec qui joue dans Reuben Reuben, les gens sortiraient de la salle. Tout simplement parce que la mocheté féminine n'est pas montrable. Elle dérange, elle est inusitée. Elle est même monstrueuse. Au lieu que pour un mec, la mocheté est un signe de santé, plus il arrive à la transcender, plus il a de couilles au cul, plus il est admirable et plus il est désirable. Regardez Belmondo. Regardez Humphrey Bogart, regardez la presque totalité des modèles masculins considérés comme les plus enviables et les plus sympathiques. La sympathie, hélas, ne va pas aux femmes moches, par contre. Les stars pas très belles comme Barbara Streisand ou Liza Minnelli finissent toujours par se planter dans leurs amours. Pour une raison ou pour une autre, les mecs les lâchent malgré tout leur charme. Vous pouvez aller voir New York, New York, dans ce genre, ou bien même Cabaret, ou bien Nos meilleures années de Sidney Pollack, et presque tous les films de Barbara Streisand. La question ne se pose tout simplement pas pour les vedettes masculines, qui ne sont presque jamais beaux, selon les critères que l'on réclame dans leur catégorie. Ainsi, dans Reuben Reuben, le héros est moche, et en plus, il n'a pas de biceps, ce qui est généralement une condamnation dans les critères esthétiques féminins. Dans les critères esthétiques masculins. Cependant, le héros de Reuben Reuben peut aspirer aux plus belles nanas. C'est un cavaleur de première classe. Elles lui tombent toutes dans les bras parce qu'il est intellectuel et qu'il est atypique. Les mecs ont pensé à tout. Lorsqu'ils sont moches, ce qui n'est pas pour eux un handicap, mais en plus, lorsqu'ils n'ont pas de biceps, ce qui est pour eux un handicap, ils se servent de leur tête et de leurs différences. Et ça marche avec les femmes, avec nous. Par contre, si vous êtes une femme et que vous êtes moche, n'essayez surtout pas de vous servir de votre tête, ça les fait débander. Autrement dit, quand on est une femme et qu'on est moche, on peut toujours aller se jeter soi-même à la poubelle. La conclusion que j'ai tirée de Reuben Reuben et de tous les films, sans presque aucune exception, c'est que la beauté est une condition primordiale de l'existence des femmes vis-à-vis des hommes. Tandis que les hommes, de leur côté, ont simplement à être hommes, c'est-à-dire n'importe quoi, pourvu qu'ils soient porteurs de phallus. Ils peuvent être doux, ça marche. Ils peuvent être violents, ça marche. Ils peuvent être performants, ça marche. Ils peuvent ne pas être performants, ça marche. Ils peuvent être bêtes, ça marche. Ils peuvent être intelligents aussi. Je parlais du plan social et légendaire. Quant à moi, n'importe quel type d'être humain dont l'intelligence et la beauté vient du cœur me suffit et me complaît. Malheureusement, les films illustrent une réalité ambiante et dominante. Et c'est à ce titre que je les récuse, parce qu'ils offrent l'exemple. Voilà, c'était la chronique cinéphilique hebdomadaire d'Éponine Azelma, d'après un film tout à fait médiocre, secondaire et à ne pas aller voir, qui est Reuben Reuben, ou La vie d'artiste de Miller, au Broadway. Mais je crois qu'il passe plus d'ailleurs. La chronique d'Éponine Azelma est une chronique résolument idéologique et primaire. Et comme elle le rajoute elle-même, Éponine Azelma, c'est une chronique idéologique pour cause. Tous les films offrent matière à s'insurger contre le rôle qu'on offre aux femmes. Bonsoir.
Bonsoir, c'était donc Éponine Azelma. Et vraiment, elle est très, très méchante, hein, il faut le dire. Hein, elle est méchante. Hein, mais elle a raison. Hein, elle a raison. Moi, je trouve qu'elle est un peu méchante, mais je l'apprécie quand même beaucoup. Vous pouvez toujours nous téléphoner au 40 51 41 023 si vous avez adoré Reuben Reuben, un film très con que Éponine Azelma n'a pas du tout aimé. Et on continue en musique de Guest Stars. Toujours du rock, toujours des femmes. Radio Pleine Lune, la radio des femmes qui bougent. 101,4 MHz sur Radio Zone. On y va, en avant, en arrière, c'est bon. Non, ça va pas. Raison technique, n'est-ce pas, comme toujours. Alors, on réessaye les guest stars, c'est bon ? Non, c'est pas bon. Alors, on va peut-être continuer sur autre chose. On va mettre de la musique. Malaria, c'est des Berlinoises qui font de la belle musique. Toujours sur Radio Pleine Lune 101,4 MHz, c'était Malaria. On avait eu des petits problèmes techniques avant. Et donc Malaria, c'est un groupe de Berlinoises. Alors on a au téléphone comment on appelle ça, notre chroniqueuse cinématographique qui est en ligne et qui est un peu inquiète. Elle se demandait si c'était bien. Elle trouve que quand même, si c'est méchant, c'est juste. Elle a raison d'être méchante. C'est parce que les films qu'elle voit sont des gougnous la plupart du temps. Et c'est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec elle et j'apprécie beaucoup, beaucoup sa critique. Toujours sur Radio Pleine Lune 101,4, de nouveau, Malaria. We'll be right back. 101,4 MHz, vous êtes sur Radio Pleine Lune, sur Radio Zone. Alors, j'avais un peu envie de vous parler de deux ou trois événements que j'ai lus dans le journal qui m'ont énormément frappé, auxquels j'avais envie d'apporter un commentaire. Alors, le premier, bien sûr, c'est cette incroyable, immense catastrophe qui s'est passée en Inde, catastrophe donc écologique, une usine chimique qui a eu un accident et un produit chimique qui s'est déversé sur une ville et qui a fait des milliers de morts, de blessés, d'intoxiqués. Alors c'est vraiment les catastrophes écologiques et chimiques, c'est très fréquent. Il y a eu à Genève, on a pleuré, au Mexique, la moitié de la ville a brûlé, 500 morts, et maintenant en Inde, à Bhopal, dans le centre de l'Inde, une usine, une filiale de la Unite Carbide, a eu une fuite et un produit meurtrier, le méthylisocyanate, s'est échappé. Il s'est échappé pendant une heure. Pendant une heure, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a, on est arrivé à la fin de cette heure à colmater la brèche ou simplement est-ce que la cuve était vide? C'est une question qu'on peut se poser. Et donc ce gaz meurtrier s'est échappé sur la ville. Alors le nombre des morts n'est pas encore, on ne sait pas encore exactement combien de morts. Les chiffres officiels sont de l'ordre de 1000, mais on sait que d'après les chiffres médicaux des gens qui sont présentés aux hôpitaux, des gens du service médical, on peut parler de 2000 morts. Et en tout cas, 200 000 personnes sont intoxiquées et 20 000 sont gravement intoxiquées et doivent avoir un traitement médical. Donc c'est une catastrophe incroyable, c'est la plus grande catastrophe de cet ordre. Jamais il n'y a eu tellement de morts, tellement de blessés, tellement d'intoxiqués. Donc cette usine, Union Carbide, fabriquait des pesticides. Et des pesticides et l'isocyanate de méthyle est une des matières premières de ce pesticide. C'est ce pesticide, il s'agit de l'aldicarbe, qui est le principe actif de pesticides comme par exemple le thémique, qui est employé pour l'élimination des parasites des plantes ornementales et aussi des betteraves sucrières. L'aldicarbe, c'est un pesticide qui se présente sous forme de cristaux blancs et qui est lui-même classé produit extrêmement toxique. Donc le gaz s'est déversé sur la ville et ça provoque des brûlures, des yeux, des nausées et surtout des difficultés respiratoires. Et finalement, les personnes meurent d'œdème pulmonaire, c'est-à-dire que les poumons se remplissent d'eau et on ne peut plus respirer et ils finissent par mourir en quelque sorte noyés. Alors que faire? Les hôpitaux ne peuvent absolument pas répondre à cette catastrophe parce que les soins à donner sont très nécessite un appareillage très compliqué. Il faut oxygéner, il faut aérer, ventiler les personnes. Et bien entendu, les hôpitaux de la région de Bhopal ne sont absolument pas en mesure d'essayer de sauver les personnes qui sont intoxiquées. Alors donc, cet isocyanate sert à faire ce pesticide. Alors d'après la Union Carbide et d'après une déclaration qu'a fait Monsieur Luc Briart, qui est le responsable de la division des produits agricoles à Genève, il appartient au siège européen de la Union Carbide qui se trouve à Genève, à la route de Meyrin. C'est donc Monsieur Luc Briart a dit que ce produit ne se fabriquait donc que en Inde ou en Virginie aux États-Unis. Alors effectivement, c'est l'isocyanate de méthyle qui entre dans la fabrication de ce pesticide ne se fabrique que dans ces pays, mais d'autres fabriques utilisent ce produit, par exemple pour fabriquer des insecticides, par exemple en Géorgie aux États-Unis à Woodbine ou en France à Béziers où on a aussi des réserves d'isocyanate de méthyle. Alors les différentes déclarations de par exemple ce monsieur Luc Briart, responsable de la division des produits agricoles de la Union Carbide ou du ministère de l'industrie chimique indienne sont assez obscures et comportent plusieurs points qui mériteraient des recherches particulières. Ainsi, Monsieur Luc Briart dit dans sa déclaration à la Suisse, il a été interviewé par le journal de la Suisse, et il dit, premièrement, ce n'est pas du cyanure. Ce n'est pas du cyanure, ça voudrait dire quoi? Ce n'est pas dangereux. Non, on sait très bien que c'est terriblement dangereux, puisque bon, on ne meurt peut-être pas d'étouffement comme pour le cyanure, mais on meurt d'œdème pulmonaire, c'est tout aussi dramatique, et le nombre de morts atteste de la gravité de ce produit. Ce n'est pas d'ailleurs le seul à dire que ce n'est pas dangereux, puisque justement, le ministre de l'industrie chimique indien dit que le méthylisocyanate est communément employé dans la fabrication des pesticides et n'est généralement pas toxique pour les humains, sauf à très forte dose. Alors, d'après toujours ce ministre, les spécialistes ont admis qu'ils ne parvenaient pas à expliquer le nombre des victimes. Alors là, c'est vraiment tout à fait faux, car d'après le professeur Étienne Fournier du Centre antipoison de Paris, c'est au contraire un gaz terriblement toxique. Je cite, c'est une cochonnerie dont les effets sont comparables à ceux des gaz de combat que l'on n'a pas osé utiliser pendant la dernière guerre. Bon, on n'a pas encore recensé de cas d'intoxication chez les hommes jusqu'à maintenant, donc on ne pouvait pas savoir exactement quelle était la dose toxique pour les hommes, mais en tout cas pour les rats, la dose létale par inhalation est de 5 parties par million pendant 4 heures pour le rat. Et ces recherches ont permis de donner une dose maximum admissible pour les ouvriers et qui est fixée à 0,02 parties pour million. C'est donc un produit extrêmement toxique et 50 fois plus, et la norme est 50 fois plus sévère que pour le chlore, qui est lui-même considéré comme une substance particulièrement dangereuse. Donc, premier point obscur de leur déclaration, pourquoi est-ce qu'ils essayent de minimiser le danger quand le nombre de morts, le nombre d'intoxiqués nous montre bien que c'est un gaz très très dangereux. Alors, par ailleurs, pourquoi il y avait cette immense quantité stockée en Inde? Puisque à Bhopal, l'isocyanate était stocké dans 3 réservoirs souterrains de 45 tonnes chacun. Et donc, c'est un de ces réservoirs qui a fui et il est possible que 45 tonnes se soient déversées dans la nature. Et le stockage en vrac d'une telle quantité de ce produit est extrêmement dangereux si un grand nombre de précautions ne sont pas prises. C'est ce que estiment la plupart des spécialistes. En France, à Béziers, où il y a une usine qui stocke de l'isocyanate de méthyle, on accepte uniquement 50 000 litres. C'est la quantité maximum de stockage autorisée et on ne peut pas en stocker plus. Tandis qu'en Inde, on est arrivé à des quantités beaucoup plus grosses et d'après les chiffres, il y a sûrement 2500 tonnes de pesticides qui sont produites chaque année à Bhopal. Par ailleurs, toujours M. Briart, donc le responsable de la division des produits agricoles de Union Carbide à Genève, à la route de Meyrin, dit aussi dans son interview à la Suisse. En 25 ans de production, de transformation et de manipulation de l'Union Carbide du méthylisocyanate, on n'a jamais eu le moindre accident. Question. La fuite qui a causé plusieurs centaines de morts est donc le premier accident. Il n'y en a jamais eu auparavant. Non, pas d'incident majeur, parfois des petites fuites, mais rien d'important. Ce n'est en tout cas pas ce que disent les syndicats indiens, puisque d'après eux, depuis sa mise en marche en 1977, il y a eu des accidents à 3 reprises. Le premier en 1978, au cours duquel 6 ou 7 personnes ont trouvé la mort, puis 2 autres en 1980 et 1982 qui ont fait une dizaine de victimes. À ce point que le secrétaire général de la section syndicale a accusé la direction d'apathie et de négligence criminelle et qu'il avait demandé depuis longtemps la nationalisation de l'entreprise. On voit donc que, comme toujours, les responsables de ces catastrophes qui deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus graves ne font rien, ne veulent rien dire, ne veulent rien faire et se cachent derrière un silence, derrière des mensonges, derrière des désinformations. Alors ici, en France ou en Suisse, bien sûr, les déclarations, c'est toujours de dire « mais ça n'arrivera pas chez nous, ça ne peut jamais se passer, chez nous ça va très bien ». Eh bien effectivement, chez nous ça ne se passe pas comme ça, et pourquoi? Parce qu'ici on est riche, parce qu'ici on a du fric, ce qui fait que les usines elles vont produire leur merde et leur saloperie ailleurs, dans les pays pauvres, où les législations sont moins restrictives, parce qu'ils implantent des usines dans des centres urbains. À Bhopal, cette usine de la Union Carbide est au milieu d'un bidonville. À Mexico, les citernes qui ont pris feu étaient au milieu de la ville et c'est ça l'élément dangereux, c'est le fait qu'on implante des usines dans ces pays pauvres, de sous-développement, d'urbanisation sauvage sans aucun contrôle. Alors c'est pas étonnant que ça n'arrive pas chez nous parce que ici les patrons savent très bien aller foutre leur merde ailleurs.
and great big signs, and they all say hallelujah, yodelay hee hoo, every man.